de Kobe. Je veux qu'il stack à Benine. Toi t'es quand t'es teubé. T'as pas de fesses, faut dégale. Je suis dans la bouche de ta femelle. Elle veut cacher, c'est qui la selle. Je suis de retour, c'est officiel. J'éteins ces putes gens Israël. J'ai pas de réseau, envoie signal. Ah ah, médicinal. Body rend fou réel. Je suis organe, ça c'est réel. JGG, je suis la go qui est PDG. AR Bruxelles CDG. Plus ton rappeur c'est léger. J'entends ça, t'es oula. J'ai dit, je veux faire la moula. Moi je suis tout part comme Jula. Je fais ça bien, c'est chaud là. J'entends ça, t'es oula. J'ai dit, je veux faire la moula. Moi je suis tout part comme Jula. Je fais ça bien, c'est chaud là. Il dit, ok, da, ouais, tout. Il dit, ok, da, prends ça. Il dit, ok, da, ouais, tout. Il dit, ok, da, dégage. Il dit, ok, da, ouais, tout. Il dit,
salut à tous, c'est Dr Juice. Oui, oui, celui-là même qui a la recette pour faire passer tes chagrins d'amour et dépression saisonnière à coups de playlists bien funky dans ta tronche. Alors si tu te sens pas au top, que t'as besoin d'illuminer ta vie ou que t'as simplement envie de découvrir des nouveaux sons incroyables à rajouter à ta playlist, je te conseille de te brancher sur Dr Juice tous les lundis soirs à 19h sur Move.
Vous êtes connecté sur Move. Tous les jeudis.
19h21h.
19h21h.
Tunnel. Le bruit et l'humeur.
Anna Tournesoff.
Ah ouais. Et il est 20h sur Move et un pape progressiste a été nommé. Et pardon, mais il faut trouver des moments de joie et c'est quand même quelque chose de très gros. Donc réjouissons-nous. Nous sommes pour cette deuxième heure de Tunnel. Toujours en compagnie de Fadili Camara, Soraya Razel, Rokaya Diallo et Christelle Murula pour parler du corps des femmes. Et juste avant, nous parlions du fait d'être visible en tant que femme et ce que ça pouvait créer en termes de questionnement sur sa propre image, etc. Fadili, ça fait quoi de se voir sous autant de facettes? Parce que toi, ton personnage, du coup, dans Coca Chicas, on va pas spoiler, mais il se bat beaucoup.
Ouais.
Il est souvent comme ça, transpirant, à péter un câble, etc. Ça fait quoi de se voir sous une identité qu'on n'est pas et peut-être avec une image qu'on ne maîtrise pas forcément finalement?
Franchement, ça a été compliqué.
C'est vrai? Pourquoi?
Je vais pas mentir, moi je suis très reconnaissante du métier que je fais, mais c'est vrai que, alors dans l'idée, je suis très contente de l'avoir fait, mais dans l'idée, c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, au-delà de l'histoire d'amitié, du fait que j'étais quand même assez contente de voir qu'on parlait des mules. Alors bien évidemment que c'est un peu romancé aussi, mais que c'était plus juste un fait divers, mais qu'on avait vraiment la mésaventure de certaines mules pour quand même lancer le message aux gens de ne pas faire ça. Donc s'il vous plaît les gars, vraiment évitez, parce qu'il y a
vraiment une volonté de prévention.
Ah oui oui, clairement, parce que enfin c'est les mules, enfin c'est un phénomène qui est vraiment en pleine expansion.
C'est vrai.
Et ah oui oui, en pleine expansion, il y a vraiment 1000 arrestations par an. 1000 arrestations par an, il y a 100 kilos de cocaïne par jour qui sont pris, donc c'est vraiment un vrai dossier, il y a vraiment des destins tragiques.
Et c'est vrai, et c'est du coup cette cible-là, souvent des femmes issues de quartiers populaires qui partent parce qu'elles sont en galère, parce que là on en a une qui n'a pas de famille, l'autre elle a un enfant en bas âge qu'elle doit nourrir, donc on voit que c'est
ouais, carrément, et ben franchement, moi avant quand j'entendais parler des mules, et après je vais répondre à ta question, mais quand j'entendais parler des mules, c'était voilà des petits faits divers ici et là, et souvent oui c'était des femmes issues de milieux qui étaient vraiment défavorisées. Et ce qui fait peur aujourd'hui, quand j'ai su que j'allais faire le film, je me suis un peu plus renseignée et il y a vraiment mais des femmes de partout. Genre vraiment ça fait vraiment flipper. Il y a des femmes de toute origine, de plusieurs milieux. Alors je sais pas si c'est lié à ce qui se passe économiquement, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ouais, ça fait vraiment flipper. En fait, c'est juste que la plupart c'est des femmes qui sont juste fragiles, vulnérables. Parfois, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, juste qui font confiance et qui se disent « Ok, j'ai juste à faire ça et puis ok, je passe. » Mais souvent, il y en a qui sont juste prises donc pour faire passer de la drogue, et il y en a qui sont vraiment prises, mais en sacrifice, et elles ne le savent pas. Donc, par exemple, il y a des j'allais dire des hommes, mais ça, parfois, il y a même aussi malheureusement des femmes aux têtes de ça, mais qui disent « Ok, donc tu vas transporter la drogue. » Donc la fille, elle se dit, ok, tout est safe. Et en fait, ils savent très bien que la personne qu'ils envoient va se faire attraper. Comme ça, ils en envoient d'autres. Donc enfin bref, c'est vraiment tout un truc qui est... non, mais c'est vraiment un truc... c'est vraiment un phénomène qui fait vraiment peur. Et moi, j'ai eu du mal à jouer ce rôle parce qu'en fait, c'est aux antipodes de ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un, voilà, bon, ben, moi, j'aime rire, j'essaye en tout cas d'être assez positive. Et mon personnage, c'est tout le contraire, on n'a pas le même vécu. Mm-hmm. Parce qu'elle, elle a été, malheureusement, elle a été, c'est une fiction, mais elle a été abusée par son beau-père. Donc, ça fait qu'elle est très renfermée, elle est très dure, c'est une ex-militaire. Et voilà, elle est un peu en galère d'une certaine manière et elle est très proche de ses amis. Donc, elle veut les suivre coûte que coûte. Pour les protéger. Et en fait, dans l'interprétation du personnage, elle était tellement fermée, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je sais que depuis que je suis très jeune, je sais que j'ai toujours eu l'impression qu'en tant que femme noire, dès que je m'énerve un peu trop, on me le faisait souvent remarquer, c'est « Oh, mais pourquoi t'es énervée ? Oh, t'es tout du truc !» Même quand je parlais un peu fort, on me ramenait toujours à ça, et j'avais l'impression d'être juste... je sais pas comment exprimer le truc, mais... pas déshumanisée, mais j'avais l'impression d'être bizarrement très masculine dans tout ce que je faisais. Et donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai fait ce film, je me souviens que je disais souvent à la réalisatrice... Vraiment, je pense qu'il faut qu'elle se détende parce que j'ai l'impression qu'elle a tout le temps le visage serré et j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Ça me gêne. Elle a toujours le visage serré. Je veux pas qu'on se dise que c'est une angry black woman. Enfin, vraiment, moi, ça me prenait vraiment la tête sur le tournage et on avait des conditions spéciales et j'étais très contente de faire ce film. Et je sais que ça, c'est vraiment le point. Et les filles, même les deux autres actrices, elles pourront vous le dire. À chaque fois, je leur disais, je sais pas, le soir, je disais, je sais pas, mon visage, je suis tout le temps comme ça, j'ai peur qu'on me voit que comme ça. Il y a même un moment, je m'entends très bien avec le prod, mais je disais, non, mais comme par hasard, tu voulais que ce soit moi qui me fight et tout. Alors qu'en fait, non, le personnage est vraiment profond et vraiment complexe.
Il est complexe, ouais.
Voilà, et quand je me suis vue la première fois, très sincèrement, j'ai été, j'étais plâtrée. Hein. Je regardais, j'arrivais pas, d'ailleurs, je tournais la tête, je commentais, dès que je me voyais, je disais, mais pourquoi je souris pas à ce moment-là, mais pourquoi je souris pas, pourquoi. Et étrangement, on n'attend jamais la validation des autres, mais c'est vrai que quand on a fait la projo, donc là avec la famille, les amis, etc., ça m'a rassurée, même des inconnus. Il y avait vraiment des inconnus qui me disaient purée, en fait, ils ne voyaient pas du tout ça. Mmh. Et je me suis dit, je fais peut-être une fixette. Mmh. Et en fait, ça collait bien au personnage et c'était justifié, mais ça a été assez, assez compliqué. Ouais.
Peut-être aussi après que. T'as voulu à juste titre t'assurer que t'allais pas incarner un truc, un énième cliché,
c'est ça,
qui te dérange, parce que peut-être aussi en tant qu'actrice comédienne, on t'a proposé plein de fois des choses très stéréotypées.
Bien évidemment, et vraiment ce qui est compliqué, c'est de passer entre les balles. Alors on peut faire des erreurs. Hein. Moi, je dis pas que je ne sais pas en tout cas comment les gens m'ont perçu, si j'ai peut-être fait des erreurs sur certains projets. Possiblement, il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé ce que je représentais dans certains projets, mais c'est vrai que tu passes toujours entre les balles et c'est jamais évident de refuser. Parce bien que tu passes des castings, certes, mais même de passer le casting et de dire à ton agent « Non, ça, je vais pas le faire. » Bon, Dieu merci, moi j'ai un agent qui me comprend, qui est genre, enfin, d'ailleurs, je fais un gros bisou au Gonzalve, mais je suis très contente d'avoir cet agent-là qui me comprend en tant qu'individu, qui me comprend, qui comprend tous les choix que je fais. Mais c'est vrai que des fois, quand tu reçois des castings et tout, ou même genre on te propose des scénarios, t'es là, je vais devoir dire non. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bosser, mais là, c'est un peu compliqué. Et je ne juge pas ce que la personne fait, mais je sais qu'avec moi, ça, je peux pas. Je peux pas, ça va pas renvoyer le bon message. C'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire. Donc ouais, même si t'as pas spécialement envie, une fois que t'es dans la sphère médiatique, tu sais que ce que tu représentes, c'est important déjà pour toi, parce que c'est toi que ça touche d'abord, mais c'est important même pour les gens qui se sentent représentés, en tout cas par toi.
Et c'est vrai que tu l'as souligné, ce personnage, il représente plein de choses et il incarne une identité d'une personne qui a survécu à des violences sexuelles. Il y a une question, je crois, c'est compliqué de passer à côté quand on parle du corps des femmes. C'est la question de l'intégrité, la question des agressions. Comment est-ce qu'on reprend le contrôle quand notre corps est violenté? Comment est-ce qu'on se réapproprie son corps? Soraya, je me tourne vers toi peut-être pour introduire cette discussion, parce que justement les vixens que tu entends représenter, que tu aides et épaules concrètement en les représentant, et avec vraiment, pour le coup, on entend toujours sororité à tout bout de champ, mais là en fait, sans le nommer, c'est ce que tu fais, hein, c'est vraiment soutenir les autres femmes pour ne pas qu'elles subissent des choses parce qu'elles sont des femmes. Comment est-ce qu'on se réapproprie vraiment son corps là où il pourrait être justement violenté, instrumentalisé, etc.
Alors, je pense que c'est un exercice qui est personnel et qui est propre à chacune, parce qu'on a toutes des façons différentes de tenter de se réapproprier son corps, mais bien souvent, c'est l'histoire de la quête d'une vie entière. Je pense que c'est difficile de se réparer, et c'est ce que je dis aux filles, je pense que rien, en réalité, pourra réellement nous réparer, que ce soit même quand on écrit, même quand on essaie de créer quelque chose autour de ça, ça ne répare pas, mais on peut essayer de se construire plus forte avec ça, en fait. Je dis souvent que une vixen ne devient pas vixen par hasard, on se révèle vixen à un moment de trop plein dans notre vie. Quand on a été sexualisé trop jeune, quand notre corps a été commenté, quand notre corps a été abusé, c'est une réappropriation de son corps. Mais encore une fois, c'est un cheminement très personnel. Pour ma part, moi, ça a été déjà d'assumer des choses que j'aimais pas chez moi avant. Par exemple, on me disait que j'avais un gros nez, on me disait que j'étais trop maigre, on me disait que j'étais parfois trop grosse parce que j'avais forcément une grosse poitrine, etc. Moi, j'ai essayé d'apprendre à accepter mon corps. Alors, c'est vrai que à la dernière fois, une féministe bien pensante m'a dit que ce que je faisais, c'était pas féministe parce que ça servait que sa propre cause et qu'elle se trouvait belle dans le miroir, ça change pas le monde. Peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, tu vois, genre pour moi, ça passe par là. Ça veut dire que ça change pas le monde, mais ça change déjà son monde à soi. Ça change la façon dont on occupe l'espace, la façon dont on décide de se concentrer sur des combats peut-être plus importants et qu'on essaye de s'estimer légitime. Pendant longtemps, comme on le disait tout à l'heure, il n'y avait pas de femmes qui nous ressemblaient, mais incarnons ses propres schémas. Tu vois, à un moment donné, un jour, j'ai vu Camille Cotin à la télé et je me suis dit, elle aussi a un gros nez. Donc finalement, tu vois, j'aime bien mon nez maintenant, tu vois, je suis en paix avec ça. Et puis, il y a des femmes qui ne s'aiment pas, qui vont vers la chirurgie, c'est OK en fait. Et peut-être que quand je prendrai de l'âge, j'aurai envie d'aller vers la chirurgie. Mais j'ai aussi envie, par exemple, on prend toutes de l'âge, j'ai envie d'apprendre à bien vieillir, j'ai envie d'être en paix sur les années qui viennent. Tu vois, bientôt, je dis jamais mon âge, mais bientôt, je vais enterrer ma vingtaine, tu vois. Donc j'ai pas envie de le faire en étant triste, j'ai envie de me dire que les plus belles années restent à venir, tu vois. Donc c'est un défi permanent, en fait. C'est aussi le monde qu'on va laisser à nos filles derrière. Donc les femmes qu'on est aujourd'hui, c'est les exemples qu'on va donner à nos gamines, et j'ai envie qu'on leur montre que on a une durée de viabilité bien plus longue que ce que les hommes pensent.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'on dirait presque que, au-delà de nous, la bagarre pour être libre pleinement, c'est surtout une bagarre, parce que forcément on doit jouer des coudes, etc., pour que les futures générations le soient.
Oui.
Christelle ?
En fait, je trouve ça assez culotté, en plus, de dire que se trouver belle, ça changera pas le monde. Enfin, je sais pas si cette personne-là était blanche ou non blanche.
Elle est à la télé, je vais même pas dire son nom, mais okay. Je vais grave me retenir.
On va bientôt lancer la musique, de toute façon.
Mais en soi, quand on est une personne racisée, que ce soit une personne d'origine maghrébine ou une personne noire, en fait, se trouver belle, c'est une révolution. Je sais pas si se rendre compte d'à quel point c'est difficile dans cette société-là occidentale de se dire « Ok, je suis noire, je suis arabe, je suis machin, nanani, je correspond absolument pas aux canaux de beauté occidentaux qu'on nous sert à la télé, qu'on nous sert dans les magazines, qu'on nous sert absolument partout, et je me trouve belle et je réussis à me trouver belle. En fait, c'est complètement révolutionnaire parce qu'on nous éduque absolument pas comme ça à nous trouver belle. On nous éduque tu es vulgaire, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, et puis tes fesses sont trop grosses, et puis vu que la tendance est inversée, tes fesses sont trop plates, et puis non, mais t'es pas assez claire, etc.
Mais Rokaya, elle disait que la féminité, c'était une construction sociale, mais est-ce que la beauté, ça existe vraiment, ou est-ce que c'est aussi des modes qu'on appelle maintenant des trends, puisqu'on est passé en anglais,
mais c'est totalement des trends, la beauté, en fait.
comment dire,
c'est un rapport de force.
Mais oui, c'est un rapport de force.
Elle est hétéronormée aussi.
Mais oui, et puis, enfin, pour reprendre l'exemple des fesses, les fesses, ça a été tendance. Je sais pas pourquoi, il y a eu un boom. Non, c'est Kim Kardashian.
Elle
il y
a eu un super boom. Reportage
mais oui,
t'as fait
le docu sur les fesses. Les fesses ont connu un boom. C'est devenu tendance. C'est devenu machin. En tant que femme noire, j'ai toujours eu des fesses depuis que je suis toute petite. Je les ai cachées pendant très longtemps parce que c'était de l'hypersexualisation dégueulasse, de l'hypersexualisation vulgaire, etc. C'est devenu tendance, pas grâce au corps des femmes noires, mais grâce au corps d'autres femmes. Et aujourd'hui, par contre, les fesses, c'est redevenu vulgaire. Tu vois, on les recache de nouveau, ou alors celles qui se sont fait des BBL, qui ont le moyen de se les faire retirer, se les retirent. Et ça en dit long.
Les autres sont bloqués avec ça.
C'est vraiment un cercle.
Non, mais c'est vraiment un cercle. C'est des trends.
D'ailleurs,
quoi.
C'est ce que tu dis, Kim Kardashian, elle s'est appropriée totalement les codes de la culture noire. Mais tu vois, c'est pourtant pas une femme noire qui porte ces codes-là. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangée. Souvent, quand on peut être amené même à l'assimiler comme une femme noire si on la connaît pas. Si on sait pas parce qu'elle a ses codes, elle a les longs cheveux lisses, tout ça. Il y a pas que elle, tu vois. Même Cardi B, elle est peut-être afrodescendante parce qu'elle est latina et etc. Mais ça reste une femme claire.
Elle est afro latina à Cardi B.
Donc tu vois, je sais pas si elle est afrodescendante, mais en tout cas, elle est c'est une femme claire qui revendique beaucoup ces critères-là. Et on n'a pas d'artiste féminine réellement, tu vois, noire, dark skin, tu vois, qui aujourd'hui on a Doshi. On en a quelques-unes, mais ça reste encore très très peu, tu vois. Et souvent, parfois, on a même vu des artistes féminines s'éclaircir comme au gré des années, tu vois. Et je pense que ça a aussi posé beaucoup de problèmes d'identification pour la plupart. Je pense que ça s'appelle le colorisme d'ailleurs, mais
ouais. Totalement.
On va poursuivre cette discussion justement. Là, on parlait de beauté, on parlait de critères et de comment ça évolue et ça fluctue. On discutait de liberté aussi, avec quand même l'impression qu'il reste que on n'est pas libre quand on nous trouve trop belle parce que ça ne va pas et qu'on risque le truc. On n'est pas libre quand on nous trouve laide, donc ça ne va pas non plus. On va en reparler après cette page de musique. Tout de suite, c'est Wallen sur Move Donna. Oh.
C'est juste la petite sœur de ses grands frères. À la page du dimanche dans son agenda, quelques mots d'amis, des poèmes auxquels elle veut croire. C'est juste une enfant malgré les apparences. Seule dans sa chambre, elle rêve encore au prince charmant.
get bionic uranium hit. So I break them all tricks. Let's play that it's six. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world.
Et c'était Madonna, Nicki Minaj et M.I.A. Give me all your lovin'.
19h21h.
Anna, tous à regarder l'américaine de la table.
En mode, ça va, mon accent américain, un accent bien français. Hein.
C'est vrai. Ouais. Mais en même temps, il y a tellement un complexe par rapport aux accents aussi qu'on a tendance à forcer l'accent français. Bref, nous avons repris l'antenne. Vous êtes dans Tunnel sur Move. Et nous sommes... une partie bien entamée de ce tunnel, mais si vous avez loupé le début, je vous rappelle que vous pouvez le réécouter sur le site et l'application Radio France, mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Ce soir, je suis avec Soraya, Razel, Fadili, Camara, Christelle Murula et Rokaya Diallo et nous discutons du corps des femmes. Et on tournait un petit peu autour du pot, donc je vais poser la question. C'est quoi la beauté en fait ?
Pour moi, la beauté, c'est vraiment un rapport de force historique. De toute façon, on voit que d'une époque à l'autre, ce qui est considéré comme beau n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que même à l'échelle d'une vie, on voit... Enfin, tu parlais de la mode du booty, et puis maintenant, on est plutôt sur l'idée de la clean girl. Et on va d'ailleurs revenir sur ce que signifie clean, parce que c'est quand même super, super problématique dans le fond. Et puis, je pense que c'est aussi un outil d'oppression. C'est-à-dire qu'en fait, en forçant les femmes à se conformer à ce qui est considéré comme beau... on garantit qu'elle ne soit jamais sereine et jamais tranquille. C'est-à-dire qu'on est toujours préoccupé par le fait de se conformer à des normes de beauté qui sont inatteignables. Et quand on fait ça, en fait, on ne se préoccupe pas de faire en sorte d'accéder à nos droits, de lutter pour l'égalité, etc., etc. Et donc, ça nous place dans une forme d'inconfort permanent et de tristesse et de frustration qui ne nous quitte jamais. Donc, je crois que c'est vraiment une forme de distraction qui, à la fois, investit dans... la rivalité féminine, qui est vraiment un outil de division classique, et puis dans le patriarcat, où les hommes, finalement, vont désigner, en fonction de leur propre canon, qui est digne ou pas d'être regardé et d'être valorisé. Et dans tout ça, effectivement, bah, t'as des divisions en fonction du genre, en fonction de l'âge, et tu vois bien que la valeur des femmes, elle se fait en fonction de leur beauté, mais que, en fait, la beauté des femmes, c'est une espèce de cadeau empoisonné, parce que si t'es une belle femme, t'as effectivement certains privilèges, certains accès, mais en même temps, y a des doutes par rapport à tes compétences. Tu vois. Alors qu'un homme beau, tu vois, ça va être Justin Trudeau, ça va être Obama, c'est-à-dire qu'on va leur confier la destinée d'un pays sans problème. Ouais. Une femme qui va être... tu vois ce que je veux dire? C'est que là, on dit,
c'est
bon,
vrai.
Le mec beau, bah forcément, il est compétent.
Bien évidemment.
Mais une femme, quand est-ce qu'elle gagne alors? Parce
jamais.
Que si elle est
en fait,
laide...
on perd à tous les coups. Si t'es belle, t'es bête. En fait, t'es bête, t'es pas fiable, t'es fourbe, t'es dangereuse, t'es menteuse. Et si t'es pas belle, bah, en fait, on n'a pas envie de te regarder, on n'a pas envie que tu sois dans le paysage. Tu ne gagnes jamais, en fait, t'as toujours tort.
Mais c'est un truc qui est en plus beaucoup véhiculé sur les réseaux sociaux, notamment avec toutes les vidéos masculinistes, comment séduire, etc. J'ai renversé mon café, en fait, si vous voulez, le direct de ce qui se passe en plateau. Le masculinisme, en fait, va venir toujours parler de la femme tentatrice, de la femme dangereuse, de la femme qui met en danger l'homme, finalement. Et
l'homme innocent. Enfin, tu vois, t'as quand même l'idée d'innocence, etc. Et encore une fois, la beauté, quand je dis une femme belle ou un homme beau, la beauté, ça reste une construction. C'est-à-dire que la beauté, ça n'existe pas. Ce qui est beau ici, aujourd'hui, en France, en 2025, ne l'était pas nécessairement il y a 50 ans et n'est pas forcément beau ailleurs dans le monde. Donc c'est vraiment, il faut le comprendre comme une forme de fiction qui évolue au gré des intérêts des puissants et des dominants.
Puis surtout, c'est des standards de beauté auxquels tout le monde n'a pas accès, puisque par exemple, dans la décennie 2010, la mode était au teint un peu allé, donc les filles métisses ont eu la hype. Bon... en tant que blanche, on pouvait aller faire des UV si on avait envie. ça a un petit peu la peau quand même. C'est l'instant prévention. J'ai mis du temps à récupérer ce qui était récupérable à titre très personnel. Mais par exemple, pour une femme noire, bah, tu peux pas être
aller, c'est pas possible.
Bah, ouais. On te force à, comment dire, t'éclaircir la peau.
Ouais, voilà. Et tu t'éclaircis la peau avec quoi, du coup?
Bah, avec des petites crèmes très, très, très toxiques pour la peau qui t'abîment la peau. Voilà. Et ensuite, eh ben,
tu te rends très malade, en fait.
Et qui même détruisent les cellules de l'ADN, si les gens se bêtisent, etc.
Donc, en fait, on parle de standards de beauté qui, à chaque fois, viennent complètement détruire les femmes. Parce qu'on évoquait tout à l'heure le skinny talk. Pour avoir moi-même vécu des très longues périodes où je m'affamais pour être maigre, parce que c'était la mode au début des années 2010, juste avant qu'il y ait l'ère pseudo-body positive, etc. Le fait de s'affamer, c'est quand même un affaiblissement du corps qui est imposé à soi-même. Et je veux dire, imaginons là maintenant que ça revient à la mode, moi je suis toujours très effrayée à Paris depuis que j'y évolue plus de la maigreur générale. Vraiment, moi ça m'arrive d'aller à des soirées où je suis presque la plus grosse de la soirée alors que je fais une taille 38. Enfin, je veux dire, c'est pas que je me sens mal ou quoi que ce soit.
C'est en dessous de la moyenne.
C'est
plus,
que c'est étrange. Et je veux dire, moi quand je suis chez moi dans le sud, il y a pas ça. Enfin, c'est très très étrange. Et on est dans des on est dans la ville où il y a les plus de gens qui font des métiers d'image, donc on sent qu'il y a quand même une pression exercée sur les femmes. Le problème, c'est qu'en fait, si on arrive à des réunions, à des briefings, appelons ça comme on veut, à moment égal de la journée, entre des hommes qui sont correctement nourris et qui ont du coup ont eu un sommeil correct, etc., et qui sont en bonne forme physique, et des femmes qui sont fatiguées parce qu'affamées, ben, on n'est pas à égalité, en fait.
Bah déjà, ce qui est fou dans l'idée de la minceur, c'est qu'on te demande en tant que femme, tu vois, d'être grande, mais pas trop, d'être fit, mais pas musclée, et d'être fine. C'est-à-dire que, en fait, dans tes caractéristiques corporelles, on te demande d'incarner ce qui correspond le plus à une forme de fragilité, ou même d'enfance, quoi. C'est vraiment le corps qui correspond pas de poil. Enfin, vraiment à quelque chose de très, très enfantin. Et en même temps, effectivement, ce que tu dis par rapport au métier d'image, au fait d'être. Enfin, moi, je repense, j'ai une anecdote à laquelle je pense. Je me souviens qu'il y a une année où j'avais passé pas mal de temps aux États-Unis et du coup j'avais pris du poids, j'avais dû prendre genre 5 kilos. Et je travaillais pour une émission où en fait on nous prêtait des vêtements pour faire de l'antenne. Je suis revenue, je ne rentrais plus dans les vêtements. C'est-à-dire que plus rien ne m'allait. Ouais. Et je me dis, mais attends, je sais pas, je vais faire du 38 en ayant pris du poids. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux plus travailler en fait. C'est-à-dire qu'on me prête des vêtements. Et je me suis rendu compte du fait qu'on nous prêtait des vêtements en fait, qui étaient des vêtements d'exposition, des vêtements qu'on donne aux personnes qui posent pour des looks de magazines, etc., etc., qui sont pas des vêtements de personnes adultes. C'est-à-dire que c'est une taille adulte très rare de faire en dessous du 36. Et c'est en fait, mais tu vois ce que ça te met dans la tête en tant qu'animatrice, tu dis, mais attends, je ne rentre pas dans mes vêtements, je ne peux pas faire mon travail.
Si je peux me suis déjà retrouvée dans des showrooms où il y avait taille 34 maximum, enfin, c'est quand même c'est 0,8% des Français.
Moi, je fais du 34, j'avais 12 ans, quoi.
Après, si je peux me permettre, toi, moi, quand j'ai commencé dans le mannequinat et le modeling, tu vois, j'étais mineure. J'avais 14 ans, j'ai commencé surtout par des marques de lingerie, par des magazines, de glamour, tout ça et tout. Et forcément, j'étais hyper sexualisée. Et comme je le dis dans le livre, j'avais tendance à choisir un fond de teint un ton plus pâle, parce que c'est ce qu'on me demandait de faire, et même aujourd'hui j'ai pris l'habitude, et si j'en parlais avec justement Monia Cachemire il y a quelques jours, c'est lisser nos cheveux, c'est une mauvaise habitude qu'on a appris, parce que moi tu vois dans ma démarche j'arrive plus, avant j'acceptais mes boucles et tout, mais maintenant j'ai l'impression que je suis pas coiffée, c'est ce que les gens me disent, tu vois, que je suis pas coiffée quand je me lisse pas les cheveux, tu vois, parce que déjà t'es une arabe, tu dois vraiment être une arabe dans le moule, tu vois, d'être une, si t'as pas les cheveux parfaitement lisses, parfaitement machin, bah forcément on te fait des réflexions là-dessus comme pour t'effacer au maximum. Et j'ai le pire, c'est que tu vois ça, on peut être féministe, lutter contre ces stéréotypes et aussi au fond de soi continuer à parfois malheureusement en véhiculer certains, parce que justement c'est un cheminement qui prend une vie entière. Et aujourd'hui, au point où j'en suis dans ma vie, bah j'ai pas encore déconstruit ça, et ça viendra, tu vois. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui ont complètement faussé notre vision sur nous. Au cinéma, par exemple, j'ai remarqué depuis toujours qu'on sexualise à l'extrême des corps, et toujours les mêmes, tu vois, des femmes blanches, des femmes qui sont très maigres, qui ressemblent vraiment à des corps d'enfants. Mmh. Et ça me dérange énormément. Ou même quand on filme la sexualité au cinéma, elle est toujours pour servir le plaisir masculin exclusivement. En fait, c'est très, y a eu très peu de représentations comme ça. Moi, j'ai vu une série qui m'a vraiment, qui a participé à changer un peu ma façon d'appréhender toutes ces questions-là. C'est la série d'Issa Rae, tu vois, Insécure. J'adore Issa Rae pour la femme qu'elle est, la réalisatrice qu'elle est, la scénariste qu'elle est, l'actrice qu'elle est, enfin toutes ces casquettes qu'elle arrive à porter sur son projet qui a elle. Et je trouve ça fort, mais il nous manque un peu, je pense, peut-être cette représentation-là en France, de faire des séries qui parlent vraiment, je vais pas dire à nous pour nous, mais un peu en fait, pour la jeunesse de la banlieue, pour une jeunesse qui n'est pas représentée à la télé, tu vois, et qui, quand elle est représentée, n'est fait que caricaturalement, tu vois.
Mais je reviens vers toi, Fadili, du coup, parce qu'à nouveau, ça parle de représentation caricaturale. Toi, il y a eu à des moments des exigences particulières au cinéma de casteurs, etc., sur comment il fallait que tu sois et que tu te présentes. Sans citer de nom, évidemment.
Non, bien évidemment, de toute façon, je ne me rappelle même plus. Moi, je fais des amnésies. Quand il y a des trucs choquants, je suis là, j'oublie. Donc... Non, mais aujourd'hui, j'en ris. Je pense que j'ai pris l'habitude avec mon temps, mais je sais que. Parce qu'à chaque fois que je repense à cette même anecdote, je sais que moi, je me suis déjà retrouvée sur un casting où ils vont en rire. Où dedans, je devais interpréter. Donc, bon, le personnage était une Africaine donc, qui était en France depuis une dizaine d'années. Et donc, voilà, il y avait une scène où elle s'embrouillait avec son mec, mais un truc vraiment classique. Et puis dedans, je me souviens que... en fait, elle s'énervait pas vraiment, mais juste, elle lui disait... Enfin, t'as dit que t'allais m'aider, donc qu'est-ce qu'on fait ? Là, moi, je suis hors délai. T'as dit que t'allais m'aider, donc qu'est-ce qu'on fait ? Tu m'aides ou tu m'aides pas ? Juste dis-moi pour que je passe à autre chose. Simple as that. C'était ça. J'arrive là-bas, et je me rappelle que j'avais des longues tresses. Donc déjà, elle me dit, je commence à faire la scène, je le fais une fois. Elle me dit, ah, par contre, votre personnage a un accent. Non, mais franchement, moi, je vais vous dire...
J'ai tellement peur.
Non, mais moi, ça me dérange... Franchement, moi, interpréter un personnage qui a un accent, moi, ça me dérange pas. Ça dépend de ce que représente le personnage, pourquoi. Ouais. Et tant que c'est pas pour desservir, c'est pas pour se moquer, moi, vraiment, j'ai pas de soucis. Donc, étant donné qu'elle était là depuis une dizaine d'années, je me suis dit, ok, donc j'ai ajusté un peu l'accent. Elle en avait un, mais vraiment léger, que t'entendais sur certaines phrases. Et donc, je dis, ok, d'accord, donc je le fais une fois. Et en fait, à chaque fois, à la fin de la scène, je devais sortir de la pièce. Elle claquait la porte, elle était un peu énervée. Et en fait, elle voulait que je monte à chaque fois en pression. Enfin, elle me l'a dit une ou deux fois, j'ai dit ok, donc je suis montée. Mais il y a un moment où en fait, la réaction de mon personnage, à mon sens, était vraiment exagérée. Donc, et je commençais à voir où elle voulait en venir. Et d'ailleurs, elle l'a verbalisé parce que à chaque fois, je claquais la porte, elle me disait non, mais je pense qu'au bout de la quatrième fois, elle a craqué, elle a dit non, mais enfin, vraiment, imaginons que le personnage s'appelle, bon, on va dire Fadili. Elle dit, dis-toi, Fadili, elle est africaine, hein. Donc elle est féline, il faut y aller. Et elle me dit, et puis t'as des longs cheveux. Et elle aussi avait des longs cheveux, donc elle prend ses cheveux. Et elle dit, hésite pas, elle est dans une rage folle, elle est féline. Et puis elle commence à mâcher ses cheveux, et moi je suis là, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, je suis en face d'elle, et tu sais, quand t'as le sourire de... J'étais stupéfaite, je ne savais plus quoi dire, j'avais envie de rire, mais vraiment j'étais là, bitch. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je la regarde. Elle dit vraiment, hésite pas, elle est féline. Elle est africaine et puis elle se laisse pas faire. Hein, surtout, son mec, si elle peut, elle lui crève les yeux. Et je t'ai
elle lui a juste en bonne africaine.
Elle lui a juste demandé des comptes, en fait. Alors, je sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais le truc est allé vraiment très loin et j'étais là. Ok. Et moi, j'ai abandonné à ce moment-là. Donc, en fait, elle m'a dit de refaire la scène. J'ai refait la scène comme je le voulais. Donc, je suis redescendue carrément d'un cran. Et quand je me rappelle, quand je sors la porte, je fais la scène et je sors, j'entends son assistante qui dit « Ah non, mais là, ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire. » Du coup, je suis rentrée, j'ai dit « Ah, merci. » J'ai pris mes affaires et je suis partie. Mais c'était terrible.
Et ça, le projet, il a abouti ou pas ?
J'en ai aucune idée. J'en ai jamais entendu parler, moi, en tout cas.
Bah, si on voit une Africaine énervée qui mord des cheveux et qui crève des yeux dans un film...
Mets-le dans un sketch. Mets-le vraiment dans un sketch.
Ah non, mais... Ah non, mais c'était incroyable. Les gars, c'est manger les cheveux.
Mais en fait, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que la meuf, a priori, n'est pas africaine. Elle te dit...
Comment jouer ?
Elle te dit comment jouer l'Africaine. Elle te dit, attends, on parle d'une Africaine, et elle te donne les indications pour jouer, pour interpréter une Africaine.
dit t'en avais jamais vu ta vie, quoi.
Mais carrément, elle m'a dit attention. Je me rappelle qu'elle m'a dit attention. L'Africaine, elle est féline. Et j'étais là.
Wow. Ça, après, ouais, je vous apprends rien, mais je regardais les profils sur UBBA, Adéquate, les agences de comédiens, tu vois. Mm. Et il y a très peu de diversité. Enfin, on dirait enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais la diversité est encore très peu représentée. J'étais en train de chercher des comédiennes noires, arabes, etc. Impossible. En fait, impossible de trouver des profils. Et quand il y en a, tu vois, c'est que des corps, c'est que des filles minces, etc. Et c'est très difficile de trouver vraiment une réelle diversité, pas que ethnique, tu vois.
C'est la diversité à chaque fois. Mais on le voit, je trouve, sur les défilés. Soit il y a une diversité sur les corps, soit il y a une diversité sur le genre, soit il y a une diversité sur l'ethnie. T'as jamais les trois en même temps.
En tout cas,
on va faire une pause musicale pour se remettre.
Un petit rebeu dans une agence de.
De l'anecdote de Fadili. C'est 23 sur Move tout de suite, il y en a.
J'étais très bonne à l'école, donc j'ai fait un peu moins bien. J'avais un peu peur des profs, mais surtout de mes voisins. Je me fais toute petite en classe, j'ai toujours visé moyen. Ma mère me parlait beaucoup, donc je fais la conve à mon père. Mon père est genre rassurant, donc je rassurais ma mère. Mon frère est super marrant, et moi j'ai rien de spécial. J'écris des chansons la nuit pour oublier mes journées. On fait des tours de la ville, ça fumait pas dans soirée. On parle d'un futur ailleurs, on est que des enfants qui attendent. J'ai trop vu les hôpitaux, et même l'été c'est tout gris. Je regardais par le carreau pour pas voir ma mère qui plie. Mon père n'est jamais venu, il est sûrement occupé. J'ai pas eu le choix d'être comme ça. Si j'avais su, j'ai pas eu le choix d'être comme moi. Si j'avais pu. Ta grande ville me téléphone, elle veut m'acheter mes chansons. Je crie victoire et m'envole pour quelques pièces en carton. Je signe un contrat de merde, j'avais qu'à être au courant. Je découvre une ville immense, la même qu'il y a dans les films. Puis je capte que plus y a de gens, plus y a de méchants dans la ville. Je retourne chez mes parents, et puis je trouve ça petit. On fait des repas de famille, on s'aime pas, on s'examine. Je connais même pas leur histoire, si demain ils meurent c'est l'oubli. Parfois je pose des questions. C'était du vent, le premier me vole de la thune. Il aime les adolescentes, le deuxième me brise le cœur. Et moi je passe pas à autre chose, c'est comme ça. Je sais pas trop me faire des amis, avant j'étais juste timide. Maintenant je suis timide adulte, et moi ça passe plus c'est pire. J'ai pas envie d'être connue, je me fais pitié dans mes sons. Pourquoi j'aime pas les garçons? Pourquoi j'aime pas plus les filles? Pourquoi j'ai peur d'embrasser? Je crois que j'ai plus rien à donner. Pourquoi je sais pas trop grandir? On nous a pas trop appris à gérer. Pourquoi je rêve de me barrer? Partir seul là où c'est loin, où j'aurai personne à voir, personne à redécevoir. Et ne jamais revenir pour pas voir ce que j'ai gâché. Parce que peu importe ce que je fais, je peine quelqu'un sur cette terre. J'ai peur de voir de la peur sur le visage de ma mère. Je veux pas voir que j'ai perdu quand je reverrai mon frère. Parce que ça s'arrête jamais de voir flou dans le reflet. Parce que j'ai jamais guéri des mille épines dans ma tête. Parce que c'est dur d'être soi, parce que parfois j'en ai marre. Puis mon album va sortir, et le tourbillon reprendra. Et j'embrasserai ma famille.
cette chanson comme toujours. Et la vie sera super jusqu'à la prochaine chalette. Et j'aurai plus peur de perdre comme à chaque fois que ça repart. Et je soignerai mon cœur jusqu'à ce qu'il retombe par terre. C'est pas grave, c'est pas grave.
Et c'était Iliona sur Move 23.
Tunnel, tunnel, le bruit et l'humeur.
Et vous êtes un petit peu sur la fin de ce tunnel, on commence à avoir la lumière. Oui, je vais faire la même blague chaque semaine jusqu'à la fin. Ce soir, je suis avec Soraya Razel Fadili, Camara Rokaya Diallo et Christelle Murula pour discuter du corps des femmes. Est-ce que grossir, vieillir, qui sont les deux cauchemars de toute femme évidemment, toutes ces altérations supposées du corps sont autant un problème qu'avant avec l'essor du body positif qu'il y a pu avoir, où ça y est, on s'est un petit peu libéré de ça.
Ah bah c'est fini, tout va bien.
Tout va bien, c'est parfait. Allez Christelle, à la barre.
Non mais déjà, en fait, j'aimerais déjà parler du body positif qui est une initiative qui est géniale et qui je pense a aidé pas mal de femmes, mais qui ont été les égéries du body positive. Bah, je trouve que ce sont quand même des femmes qui étaient plus minces que celles qui auraient dû vraiment porter le truc, des femmes qui étaient les plus claires possibles aussi. Et du coup, bah, le body positive, c'est arrivé et puis c'est reparti.
C'est bien reparti. Ça a été une trend, en fait.
Ça a été une grosse trend. Bah, y a qu'à voir sur, enfin, dans les défilés, il y a eu pas mal de diversité des corps pendant un moment, et puis là tu regardes les défilés, c'est redevenu comme je sais pas, en 2008, 2009, des corps très maigres, voilà. Et en fait, bah, tu es dans une spirale où tu dis, ah mais non, mais je dois ressembler à ça, et puis on te sort l'exceptionnalité du body positive. Alors certes, vous êtes belle, mais vous restez quand même exceptionnelle, puisque vous rentrez pas dans la norme. Mm-hmm. Donc voilà, sachez qu'on vous fait une fleur. Enfin, moi je l'ai vraiment pris comme ça, en fait. Et aujourd'hui, bah, le body positive n'existe plus, et on est retourné dans un culte de la minceur, de la maigreur. Ce qui fait que, enfin, moi là j'ai 29 ans pour le coup, et je n'ai jamais pas eu peur de grossir.
Ouais.
Enfin, ça ne m'est jamais arrivé. Enfin, vraiment, je sais que je surveille mon poids, je surveille mon corps. En plus, comme je suis une femme noire, bah, j'ai des formes, donc ça rajoute quelque chose. Et puis, j'évolue aussi dans un milieu qui est quand même très parisien, où il y a très peu de femmes qui me ressemblent. Donc forcément, ça t'impacte sur toi, la psyché, sur ce que tu devrais, en fait, renvoyer. Donc c'est... J'ai des petites choses à régler encore.
Soraya, toi, est-ce que tu vois une évolution actuellement dans les demandes qui peuvent être émises par les artistes au niveau des types de femmes qui veulent ou...
Honnêtement, déjà, je rejoins ce que Christelle vient de dire concernant le body positivisme. Effectivement, on fait un pas en arrière, enfin deux pas en avant et trois en arrière à chaque fois. C'est assez compliqué. Concernant les clips, c'est particulier. Tu vois, bien évidemment, ce serait hypocrite que de dire que on ne correspond pas forcément à une norme qui sert les normes hétérosexuelles, les normes, quand même des standards de beauté, quand même plutôt là. Large, tu vois, malgré que on renverse d'autres standards de beauté, puisque les vixens quand même représentent une minorité de femmes qui sont pas représentées ailleurs. Ça n'enlève pas ce qui a été fait, mais ce qui reste à faire, on a atteint, je pense, un point où on est limité aussi. On reste que des meufs de clip après tout, tu vois. Notre champ d'action est limité. C'est pour ça que le champ d'action s'étend ailleurs. C'est pour ça que j'ai fait ce bouquin. C'est pour ça qu'après, tu vois, on essaye de porter des luttes différentes. Mais en tout cas, c'est vrai que cette notion de positivisme, pardon, est compliquée à aborder aujourd'hui en 2025. Moi, je me positionne plus sur des causes, enfin sur des points du féminisme que j'estime aussi nécessaires, tu vois, d'aborder, comme les violences faites aux femmes, ce genre de choses qui vont aussi avec ça. On nous a tellement fragilisés sur notre image, sur notre corps, sur tout ça, comme l'a dit Rokaya, que ça nous éloigne des réels combats, etc. Tu vois, je parle aussi de ce qu'a dit Fadili quand tu parles de ta maternité, tu vois. Moi, ça a été aussi un moment charnière dans ma vie de femme, le fait de déjà ton corps au moment d'un enfant, c'est incroyable. Juste pour ça, chérissons nos corps. Mais j'avais peur de ça. J'avais peur de
l'après.
Ouais, de l'après, parce que j'aimais bien mon ventre plat, parce que j'aimais bien mon corps sans vergeture, sans cellulite. Mais en réalité, j'aime, tu vois, la cellulite que j'ai pris, j'aime les vergetures sur mes hanches, et même mes seins qui tombent, tu vois, j'apprends à les aimer. Mmh, déjà, grâce à Sonia Chaban, parce qu'elle m'a fait découvrir des soutiens-gorge incroyables qui maintiennent tout ça. Tout ce matos en place.
Meilleur placement, j'adore.
De porter un bustier, tu vois. Et ça, c'est un plaisir. Donc, tu vois, je précise que j'allaite encore, par exemple, tu vois.
Oh, wow.
C'est, ouais, mais franchement, ça fait 2 ans que j'allaite, wow. Tu vois. Je vais vous choquer, là, les mamans Montessori.
Sans allaitement. C'est Guettosori ce soir, le thème.
Ouais, mais en fait, tu vois, pareil. En fait, il y a juste ta féminité à toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il faut arrêter de. Les gens qui te regardent bizarrement parce que t'allaites dehors alors que ton enfant paraît grand. Les gens qui, tu vois. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais en réalité, c'est juste toi. Et moi, j'aime ce corps qui me permet de donner à manger à mon bébé, qui me permet, tu vois, de je sais pas, d'être moi, de me sentir moi, tu vois. Et franchement, j'ai pris 22 kilos pendant ma grossesse. La sage-femme, qui était un peu cistra aussi sur les bords, parce qu'elle me disait trop de trucs, genre, vous allez manger du couscous, c'est des trucs comme ça, là. Non, réellement. Réellement, elle me disait ça. Elle me disait, oui, vous allez voir, faudra pas vous plaindre après, hein, quand vous allez pas perdre votre poids de grossesse, etc. Mais en fait, meuf, déjà, moi, je me concentre juste sur accoucher, sur mon bébé, etc. Qu'est-ce que je m'en fous de mon poids de grossesse,
tu vois ce que je veux dire? Le corps doit toujours être un résultat et jamais un outil, en fait.
Ton poids, il évolue, tu vois. Et franchement, je crois que j'ai jamais aimé mon corps. Et c'est pas une phrase en l'air comme ça. Depuis que je suis devenue mère, tu vois. Alors, c'est pas facile à assumer tous les jours. C'est vrai qu'il y a des fois, tu regardes un ancien maillot de bain et tu te dis que j'avoue, si tu le mets, ça va grave déborder partout. Mais d'un côté, vas-y, genre, c'est un corps de femme, tu vois. Genre, j'apprends à l'aimer. C'est ce qui va. Et faire le deuil aussi du corps qu'on a eu avant. Genre, faut pas se dire, allez, maintenant, je vais récupérer mon corps d'avant.
Vêtements et tout.
Mais jamais de la vie. Moi, ce corps, j'en veux plus, tu vois.
Rokhaya, il y a beaucoup de ces thématiques là dont on a parlé ce soir, dont toi tu parles dans ton dictionnaire amoureux du féminisme. Pourquoi il y a besoin de nommer ça, de nommer le féminisme et pas juste de dire pour le bien-être des femmes, etc., pas en faire du dev perso en fait. Pourquoi est-ce qu'il faut nommer le féminisme?
Parce que quand t'as un isme, c'est nécessairement une idéologie et l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment de garantir aux femmes une place sereine et de garantir leur intégrité corporelle, garantir une liberté de se mouvoir, de se définir comme elles l'entendent et de faire de leur corps ce qu'elles veulent.
Il n'y a pas la supériorité des femmes qui est induite. Ce n'est pas une vengeance sur ce que les hommes ont fait pendant des millénaires.
Oui, et puis en même temps, moi, je ne me sens pas le besoin de rassurer les hommes. Tu vois, on a toujours besoin de dire qu'on ne va pas se venger des hommes. Franchement, à la limite, si on le faisait, ce serait vraiment pas... Enfin, je veux dire, ce serait pas volé.
En toute légitimité.
Parce que, vraiment, je veux dire, quand même, plusieurs millénaires d'oppression, s'il y en a une ou deux qui s'énervent et qui font les Africaines énervées et qui crèvent des yeux, on leur voudra pas. Mais pour être plus sérieuse, tu vois, dans la question que tu as posée tout à l'heure, moi, ce à quoi je suis sensible, du fait de mon âge, c'est l'âge, c'est la question de la vieillesse. Et moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que quand j'étais jeune, une personne qui avait la quarantaine, c'était quelqu'un qui était considéré, moi, je voyais dans les séries, par exemple, ados que je regardais, les parents qui avaient 40 et quelques, c'était des darons et c'était fini. Enfin, tu vois, ils appartenaient à un espace qui était asexué, asocial, ils n'avaient pas de vie personnelle, pas de même d'émotions propres, etc. Et aujourd'hui, moi, j'ai 47 ans. Et du coup, c'est vrai que quand je vois. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans l'idée de vieillir, c'est ce que je vois sur les réseaux où, en fait, je vois énormément de femmes dire « Ouais, voilà ce que c'est une femme de 42 ans, voilà ce que c'est une femme de 47 ans, voilà ce que c'est une femme de 50 ans. » En fait, ce besoin de prouver qu'à 40, 45, 50 ans, 55 ans, tu n'es pas si éloigné que ça d'un idéal de jeunesse. Et le fait de ne pas accepter que, en fait, moi, j'ai 47 ans, je n'ai pas 20 ans. Et mon corps, ce n'est pas celui que j'avais à 20 ans. Je suis une autre personne avec des qualités propres, mais je n'ai pas ce besoin de me raccrocher à une époque que je ne retrouverai jamais. Et je trouve que cette injonction à toujours avoir l'air jeune et performante, elle est super, super dangereuse, quoi.
Et Rokhaya, tu anticipes ma toute dernière question. Au niveau des timings, on est parfait. Je me tourne vers le côté droit de la table, Fadili, Christelle. Dans la lignée de ce que vient de dire Rokhaya, comment est-ce qu'on se libère? Qu'est-ce qu'on peut se dire qui fait du bien par rapport à son corps? Et qui puisse d'ailleurs te faire du bien, Christelle, par rapport à ce que tu as dit juste avant sur le poids, que je partage évidemment. Je n'ai pas seule à ce plateau.
Wow! Non, mais ça, c'est une grande question. Non, mais déjà, essayez de se libérer de tous ces carcans. Après, c'est très facile de dire ça comme ça. Libérez-vous de toutes les images, machin, de toute cette propagande. Mais vraiment, essayez de s'en libérer, en fait.
T'as déjà dit un truc qui t'a fait du bien, en ce sens?
Je sais que, par exemple, quand je poste une photo de moi sur les réseaux, bien évidemment, je la fais valider à absolument tout mon entourage.
Tellement. Qu'est-ce que tu penses? T'en penses quoi? Et tu reçois 57 photos.
C'est ça, grave. Et le truc, c'est que moi, je vois des défauts mais parce que je me connais. Et mes potes me disent, mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Et je pense que c'est vraiment ce truc d'essayer de se déstresser sur ses propres défauts, sur les trucs que l'on voit, parce qu'il y a peut-être des choses que nous, on voit, que les autres ne voient pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de plus en plus de me dire dans ma tête, c'est que, je sais pas, ton mauvais profil, le fait que là, t'as l'impression que ta fossette, elle est trop, machin... Bah, en fait, les gens ne le voient pas, quoi.
Puis c'est Jennifer Padgeni qui le disait dans son livre Selfie... on se voit trop aussi peut-être.
On n'est
pas censé se voir autant. Moi maintenant j'essaie d'éviter vraiment les miroirs, etc. Parce que par exemple les moments où t'es un peu en séquence médiatique et où tu sais que je sais pas, tu t'es en promo de quelque chose et tout, tu vois ta tête partout. Enfin Fadil, je sais pas comment tu le vis en ce moment. Ouais. Tu vois ta tête partout quoi. En vidéo sous des angles que tu maîtrises pas. Enfin c'est compliqué quoi.
Ah ben moi je te rejoins. C'est toujours un long chemin. Bon à titre personnel je m'aime beaucoup. Mais bon après, on est dans un autre point. Non, parce que ça fait, pardon. Sens avec ce que tu disais tout à l'heure sur la journaliste, pardon, je me souviens plus de son nom, mais qui disait en fait, faut pas avoir peur de dire. En fait, quand on aime ce qu'on fait et ce qu'on est, bon, en ce moment, en tout cas, en ce moment, j'avoue, je me trouve un peu pétillante. Il faut le dire. Voilà, on est là, on a un peu grossi, on a repris des formes. On est bien. Mais je blague à part, il y a des moments où, ouais, c'est en fait, j'avoue que j'ai pas de solution à ça. Honnêtement, j'ai pas de solution à ça. Ce que je dirais, ce sera juste kitsch, mais je dirais juste, il faut apprendre à s'aimer soi avant d'aimer les autres. Il faut vraiment faire une introspection. En tout cas, à mon sens, c'est ce que j'ai fait. En tout cas, une introspection sur soi-même. Essayer de juste pas faire attention à ce que les autres vont penser. Et encore une fois, je te rejoins, j'ai pas la solution, moi, c'est ce que je me suis dit, moi. Et se dire, bah, en fait, là, tout de suite, là, comme t'es, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que. Enfin, vraiment, qu'est-ce qui compte, en fait? Et qu'est-ce qui compte au regard dans les yeux des gens que t'aimes? Moi, enfin, je veux dire, bon, déjà, mon mari, bien évidemment que. Pour lui, je suis toujours belle sous tous les aspects. Mais déjà, moi, quand je me regarde, j'aime bien me dire, moi, ça, ça me va. Moi, ça, ça me va. Moi, déjà, ça me va. Et après, le reste, on verra. Hein.
Soraya, très rapidement, toi, si tu as une vixaine, justement, qui vient de voir, j'imagine que tu as un rôle un peu de sœur, de grande sœur, peut-être, avec elle. Qu'est-ce que tu leur dis pour les reboosts, très rapidement?
Franchement, ça dépend, parce qu'elle aussi, elle me booste beaucoup plus qu'on le croit en réalité. Et c'est justement très intéressant ce que tu dis là, parce qu'autour de la table, tu vois, je vois que des femmes inspirantes, des femmes, on prône toutes quand même un certain body positivisme, certaines libertés, certaines valeurs qui nous sont communes. Et pourtant, tu vois, on peut représenter pour certaines personnes un exemple de points d'acceptation de soi que certaines aimeraient atteindre. Mais ce qu'on vient de dire là pendant deux heures, c'est bien que justement cette quête est perpétuelle et qu'on est toutes, toi par exemple, t'as ta tête sur des grandes affiches de bus, etc. Et pourtant, tu vois, t'as des jours où tu doutes, toi aussi t'as des jours où on doute toutes en fait. Tu vois, et c'est juste dire c'est ok. C'est ok là-dessus, mais il y a cette sœur qui a réussi à faire son film au cinéma, il y a cette sœur qui passe à la télé et qui cloue le bec à des mecs d'extrême droite. On y arrive. Et juste ça, c'est montrer que même, je pense, Kamala Harris, en allant faire son discours, mais Skina, elle doit se dire la même chose.
Et même les superstars, tu vois, genre peut-être que Lady Gaga, au moment où elle monte sur scène pour aller arriver devant des millions de personnes, elle se dit ah non, je suis chum. Enfin, tu vois, c'est obligé.
C'est sûr. Pour l'anecdote, j'ai mes photographes, c'est pas un film, qui ont travaillé pour Cardi B, tu vois. Et Cardi B, pourtant, elle est hyper, tu vois, badass, c'est la girl, powerful woman, tout ce que tu veux. Mais Cardi B, je peux te dire qu'elle était bien derrière elle, les yeux sur le truc, quand t'as qu'à retoucher et tout, tu vois. Genre, c'est vraiment... elle est focus, elle aussi, elle est pleine de complexes, et c'est normal, en vrai, tu vois.
Et si je peux me permettre, ce que tu me dis ça, ça me rappelle... Moi, je sais que j'ai... une connaissance, là c'est l'instant un peu gossip, qui s'est déjà retrouvée en studio avec Cardi. Bon, je dis ça, mais en même temps, c'est plutôt quelque chose qu'elle revendique. Et il m'a dit, ouais, elle arrive en studio, vraiment, elle avait son seau genre de KFC, elle était en claquette, genre, il m'a dit vraiment, elle était pas coiffée et tout ça. Et j'étais en mode, ah ouais, tu sais, il m'a dit, et tu sais quoi, je l'ai trouvé, mais sexy de ouf. Et je dis, ah ouais, mais parce que quand il me le disait au début, je me suis dit, un peu vanné. Il m'a dit, non, en fait, elle était tellement confidente. Elle était confidente, je le dis. Elle était tellement confiante.
Quoi, déjà le mot en français.
Parce que
t'es trop bilingue.
C'est ça. Je réfléchis en anglais depuis tout à l'heure. Tu connais déjà que ça allait deux semaines. C'est l'arrière de Zola. Comment dire en français? Excuse me. Politique. Non, mais en fait, elle était tellement en confiance. Elle était tellement voilà, je suis là, et elle se sentait fraîche comme elle était, que lui, il a trouvé ça genre fou.
Ben voilà, on va rester sur ce conseil justement.
Soyez Madame Bougie,
c'est ça. Soyez le naturel et développez votre aura aussi, et ça passe par. Par justement s'aimer et être une bonne personne aussi, je crois. Ça joue pas mal. C'est l'heure de se dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir été à mes côtés ce soir. Christelle Murula, on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur ton site aussi, christellemurula.fr, avec un H entre le R et le U, c'est très important. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Rokaya Diallo, on te retrouve dans toutes les bonnes librairies avec ton dictionnaire amoureux du féminisme et une dizaine d'autres ouvrages. Donc voilà, vous aurez du choix et vous pourrez rajouter plein de choses dans votre pile à lire. Merci d'avoir été avec nous, Rokaya, ce soir. Soraya Razel dans les bonnes librairies également.